pourrais ouvrir un livre à cette heure-là, mais je préfère écouter l'agité du local.
C'est vrai, des belles histoires, mais aussi de beaux personnages, hein, qui sont en fait des vrais gens d'ici.
J'ai envie de commencer cette émission avec quelques pas de danse, mais si je lâche le micro, vous ne m'entendrez plus, donc cette introduction n'aurait aucun sens. Je vais donc faire plus simple et vous proposer plutôt de parler danse et pas de n'importe quelle danse, puisqu'aujourd'hui on va parler de tango avec mes deux invités d'aujourd'hui qui sont à mes côtés, Gaël et Henri de l'association Tango Bueno à Laval. Bonjour à vous deux.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation. On va découvrir ensemble dans quelques instants ce qu'est le tango avec vous qui le pratiquez et surtout on va parler de l'association pour tous nos auditeurs qui auraient peut-être envie de s'y essayer, de se lancer. Ensuite dans cette émission on parle de la nuit européenne des musées et on se rendra au château de Mayenne, au musée du château de Mayenne, découvrir ce qu'ils ont prévu pour l'occasion. Ils ont choisi de mêler patrimoine et musique. On le découvrira ensemble en seconde partie d'émission. Et on termine comme chaque mardi avec la chronique de Donatien. Bienvenue amis auditeuristes dans l'agité du local, je suis Margot et je suis surtout en très bonne compagnie aujourd'hui puisque je suis avec Gaël et Henri de l'association Tango Bueno à Laval. Alors pour commencer, j'ai envie de vous proposer peut-être de nous dire quelques mots sur cette association. Depuis quand est-ce qu'elle existe par exemple? Parce que je crois que ça fait un moment.
Alors cette association existe depuis septembre 2020 à l'initiative de quatre danseurs qui ont découvert le tango. Lors d'une initiation à Bonchamp-lès-Laval. Et ensuite, bien, ça a fait un petit peu tache d'huile. Ces gens ont eu l'idée de créer Tango Bueno et ensuite de proposer des cours de danse. Alors, de façon bénévole au début et ensuite, on a invité bien plus tard, au bout de 13 ans, des professionnels qui sont venus nous donner un cours par mois.
Et alors, je pense qu'on peut parler du tango en lui-même. Certaines personnes connaissent, mais d'autres peut-être ne visualisent pas du tout ce que c'est. À quoi ça ressemble? Quels sont les éléments fondamentaux du tango?
Alors, plus précisément, au sein de l'association Tango Bueno, il faut préciser qu'on danse ce qu'on appelle le tango argentin. Donc, effectivement, avec parfois des postures un petit peu différentes du tango, un petit peu danse de salon qu'on peut voir parfois en compétition, par exemple. Hein. Donc, le tango argentin, c'est une danse qui se danse bien sûr à deux, avec ce qu'on appelle un enlacement ou un abrasso relativement proche, mais plus ou moins éloigné aussi, ça dépend de chacun. Et avec beaucoup de connexion, de communication entre les deux partenaires de danse. Globalement, il y en a un des partenaires qui propose voilà, un mouvement dans l'espace. On l'appelle en général la personne qui guide. Et l'autre personne qui accepte ce mouvement et qui l'accompagne bien évidemment. Tout ça avec bien sûr une écoute de la musique qui est fondamentale, c'est-à-dire que l'objectif de danser c'est l'interprétation musicale, donc il y a tout ça à gérer, le partenaire de danse ou la partenaire de danse, les mouvements qu'on a envie de faire et la musique.
Et alors vous le disiez, il y a un partenaire qui guide, qui propose un mouvement, est-ce que c'est systématiquement l'homme ou pas forcément ?
Historiquement, bien évidemment, c'est plutôt l'homme qui a ce rôle. On se rend compte que depuis, on va dire peut-être une dizaine d'années, de plus en plus de femmes ont envie de jouer ce rôle aussi. Donc elles commencent à guider et on en voit de plus en plus. Et il y a un mouvement un petit peu qui s'étend beaucoup en ce moment, qui s'appelle le double rôle. C'est-à-dire que finalement, en tant qu'homme ou femme, eh bien, au sein même d'une même soirée, quand on danse, on passe d'un rôle à l'autre. Alors ce sont deux rôles assez différents, ça demande de l'apprentissage dans les deux cas, mais c'est très intéressant de passer d'un rôle à l'autre. Mais on doit avouer qu'encore dans la grande, grande majorité des cas, c'est l'homme qui guide et la femme qui est guidée, ou en tout cas
qui répond
à la proposition. C'est tout à fait ça.
Il y a quelques semaines, on a reçu Andaluna Dance, l'association Andaluna Dance, qui est venue nous parler de la danse orientale, mais aussi de flamenco. Alors, on a pu souligner ensemble l'expression des visages, l'expression du corps, qui raconte énormément de choses. Vous allez me dire si je me trompe, mais j'ai le sentiment que dans le tango, une des forces, finalement, c'est la connexion. Vraiment, vous en parliez tout à l'heure, entre les deux partenaires. qui se ressent même en tant que spectateur, parce que vous en parlez dans la manière de guider, mais c'est aussi le spectateur le perçoit aussi, cette connexion.
Alors, bien sûr que le spectateur le perçoit, et pas forcément à travers des techniques très compliquées. Beaucoup de spectateurs découvrant des danseurs de tango nous disent, mais c'est pas forcément la technicité que la convivialité, c'est la relation à l'intérieur du couple qui est importante. On peut dégager énormément de choses sur une simple marche. Et rien au sein d'une technique très élaborée.
Finalement, ça raconte toujours un peu une histoire, la danse, même la danse en duo, comme ça on ne l'imagine pas forcément. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Gaëlle, vous avez dit on peut le faire de manière très proche, mais aussi on peut l'adapter finalement. Et tout ce jeu-là, tout ce qu'on crée à deux, ça raconte quelque chose pour le spectateur, mais aussi pour ceux qui dansent.
Bien évidemment, c'est une adaptation au cas par cas. Quand deux personnes acceptent de danser ensemble, eh bien, il faut s'adapter à l'autre, à l'envie de l'un ou de l'autre d'être plus ou moins proche, aux habitudes aussi qu'on a pendant un temps de danse. Et effectivement, en termes aussi de niveau technique, d'envie effectivement de cet abraço plus ou moins serré, et tout ça effectivement se recrée au cas par cas lorsqu'on danse avec une nouvelle personne.
Alors, en tant que spectateur, on peut parfois peut-être se dire oh, c'est beau, mais surtout ça a l'air si facile quand on les voit danser. Mais j'imagine qu'il y a des étapes clés pour devenir combattant et qu'il y a des difficultés que nous, en tant que spectateur, on ne voit pas forcément.
C'est vrai que ça paraît facile. Malgré tout, de faire tous ces mouvements avec quelqu'un dans ses bras et juste en face de nous, ça nécessite effectivement de s'habituer à cette situation. Pour les femmes qui dansent en tant que guidées, on marche beaucoup en arrière, donc ça aussi c'est une technique qu'il faut acquérir. Globalement, on considère que les premiers mois de tango argentin peuvent paraître vraiment compliqués. On se demande bien des fois ce qu'on fait là, mais on commence vraiment à se faire plaisir. Oui, au bout de 6 mois de pratique un peu régulière, je pense que là, on commence à se faire plaisir. Et à la fin d'une première année de danse, je pense que là, vraiment, la détente nécessaire, l'acceptation de la connexion nécessaire arrive, et on sent les personnes qui débutent au mois de septembre, arriver là au mois de juin, vraiment commencent à prendre un grand, grand plaisir à danser, qui va se construire après de plus en plus d'année en année. Henri et moi-même, nous dansons depuis 20 ans et plus, et encore, je crois, aujourd'hui, on apprend encore un petit peu à chaque fois, on a envie de découvrir aussi encore des choses, puisque tout ça évolue de toute façon, rien n'est figé dans le tango argentin.
Alors, il y a une chose très importante qu'il faut savoir, c'est que c'est une danse d'improvisation totale, ou à peu près. Alors évidemment, on apprend des figures, mais chacune des figures est explosable, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'une figure, c'est une suite de pivots, de pas ou de demi-pas. Après chaque déplacement d'appui, la cavalière ou la guidée ou le guidé ne sait pas ce qu'il va faire après. Et quelquefois, le guideur ne le sait pas forcément un dixième de seconde avant. Donc, c'est ce qui fait vraiment la force de la relation qui se passe à l'intérieur du couple de danseurs. C'est ça, c'est l'improvisation permanente.
Une danse qui s'invente finalement au fur et à mesure du morceau. C'est intéressant. Si on revient maintenant sur l'association Tango Bueno, vous organisez donc des cours tout au long de l'année dans la salle de danse du CLEP à Laval, mais vous faites aussi venir des maestros plusieurs fois dans l'année. Expliquez-nous.
Oui, alors on a effectivement des cours hebdomadaires qui sont animés par des bénévoles. Et donc une fois par mois, on a un couple de maestros, donc des danseurs de tango professionnels qui viennent nous divulguer leurs compétences et leurs connaissances. Et en plus, à deux reprises au cours de week-end, on fait venir, donc on invite hein, des maestros qui viennent d'un petit peu plus loin, de Paris et autres, qui souvent sont d'origine argentine, donc ils nous apportent aussi un petit plus parfois. Et toute cette, voilà, ces informations qu'on a à ces moments-là, on les répète, on les reprend au moment de nos cours hebdomadaires, effectivement, dans la belle salle de danse du CLEP.
Et alors quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de convivialité, je crois que c'est aussi cet apprentissage, même qui peut être laborieux dans les premiers temps, finalement c'est l'occasion aussi de se retrouver et d'échanger ensemble et de se soutenir probablement.
Effectivement, le tango argentin est une danse de couple, mais avec des dizaines, voire des centaines de couples dans une même salle. Alors à Laval, on arrive rarement à plusieurs centaines, mais malgré tout, on est un bon nombre. Et on danse effectivement avec son partenaire, on danse avec la musique et on danse avec tous les autres qui sont dans la salle. Et on change régulièrement de partenaire de danse. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a forcément des échanges en dehors de la danse elle-même.
Et alors on parle des cours, mais après on a aussi le plaisir de pouvoir mettre en pratique tout ça lors de Milonga. Est-ce que vous pouvez dire à nos auditeurs ce qu'est une Milonga ?
Alors une Milonga, le terme Milonga recouvre deux choses. Une danse particulière parmi les trois danses de tango, puisqu'on a la valse argentine, on a ce qu'on appelle le tango, qui est sur du 2 temps, 4 temps, ou 8, etc. La valse qui est sur 3 temps, bien sûr. Et la milonga, qui fait partie donc de ces trois danses particulières. Et la deuxième signification, c'est le bal lui-même, qu'on appelle aussi milonga.
Donc, qui sont organisés également sur Laval, mais il y a d'autres rendez-vous un peu partout, finalement.
Oui, c'est la chance qu'on a aussi depuis maintenant de nombreuses années où le tango argentin se développe énormément, c'est qu'il y a des associations partout en France. Et nous, à Laval, donc on a nos associations voisines avec qui on travaille beaucoup pour effectivement fixer des dates de bal qui ne soient pas identiques pour qu'on puisse aller danser ailleurs, à Angers, à Rennes, au Mans, à Alençon, à Saint-Brieuc, à Saint-Malo, il y en a partout. Et effectivement, l'idée, c'est d'organiser des soirées, donc des bals de tango argentin, comme l'a dit Henri, où il y a des danseurs qui viennent d'un petit peu partout pour encore enrichir toutes ces interactions.
Alors nous, on pourra vous découvrir, vous voir danser, découvrir l'association même en elle-même, mais dans sa pratique, ses pratiquants, lors de la semaine de l'Amérique latine qui aura lieu du 21 au 25 mai.
Oui, absolument. On remercie d'ailleurs l'association Cusca de nous avoir sollicité, de nous avoir invités. Et on invite tous ceux qui nous entendront aujourd'hui de venir à une initiation, donc le jeudi 23 mai à 19h30 dans le bar cubain La Cancanchara. Donc de 19h30 à 20h30 à peu près, on fait une initiation, donc vraiment on invite tout le monde à venir. Et ensuite, on aura aussi la chance de pouvoir aller dans une autre salle qui se trouve en bas du bar pour faire une pratique et continuer à danser avec qui voudra venir.
Et alors pour cette initiation, est-ce qu'il y a besoin de réserver, de s'inscrire ou est-ce qu'on vient comme ça ?
Vous pouvez venir comme ça, vous pouvez aussi envoyer un mail sur l'adresse que vous trouverez sur le site de Tango Bueno, de façon à, pourquoi pas, nous prévenir, mais autrement, c'est portes ouvertes.
Et alors, il semblerait qu'entre mi-juin et mi-juillet, on puisse vous apercevoir également sur le parvis du théâtre. Il y a quelque chose qui se prépare.
Oui, on espère vraiment que ça va se faire et c'est en bonne voie. Effectivement, on a aussi été sollicité par le Théâtre de Laval, qui ouvre en fait ces espaces du parvis extérieur et du hall sur une période où il n'y a plus de programmation dans la salle de théâtre. Donc qui ouvre ces espaces à qui voudra faire un petit peu des animations et on est en train de construire ça. Et donc sur cette période, une fois par semaine, ça devrait être le mardi, on va fixer ça, on va proposer donc une partie démonstration suivie d'une partie initiation. Donc encore une fois, beaucoup de propositions pour découvrir le tango argentin ce printemps.
Tous les contacts, vous l'avez dit, sont sur votre site internet. Il y a également les réseaux sociaux sur lesquels on peut vous suivre. Donc, faut pas hésiter à vous contacter pour prendre des informations, pour éventuellement voir ce qui est possible et s'il y a d'autres rendez-vous qui s'annoncent. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça a été un plaisir de pouvoir parler du tango et de pouvoir découvrir votre association. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors, dans quelques instants, c'est l'actu en bref, mais tout de suite, je vous propose un peu d'amour, de l'amour simple, facile. Avec Marco et Emma, on s'aime jusqu'à quand? C'est la question qu'on se pose dans l'agité du local et c'est sur l'autre radio. Écoutez.
Croque la pomme, c'est comme ça qu'on décide de faire face à nos peurs liées à l'enfance, un abri qu'on a bâti ensemble et on semble être si content à chaque fois qu'on vit passionnément. On s'aime jusqu'à quand? Parce que j'ai rien à faire pour un. Je vais bien en ce moment. Est-ce que ce jeu brise peu à peu les repères que j'ai tant aimé faire?
Je vais cueillir qu'est-ce que ça donne? Et si tous les jours c'était le moins doux?
Allez, c'est parti pour l'actu en bref avec trois actualités de chez nous. À vélo vers les Jeux, c'est une opération qui a commencé hier et qui se terminera le 2 juillet. Elle est organisée par les services départementaux de l'éducation nationale de la Mayenne avec l'Union sportive de l'enseignement du premier degré 53. Ce ne sont pas moins de 2600 élèves de CM1 et CM2 de 82 écoles du département qui sillonneront la Mayenne en 29 étapes de 15 km. L'arrivée sera à l'espace Mayenne à Laval, moment où les élèves se verront remettre une attestation appelée « Savoir rouler à vélo » avant de regagner leur école. A changé maintenant du théâtre à la ferme du Chéneau avec la compagnie Canopée. Le dimanche 26 mai à 15h30, Radio Reclaim, c'est le nom de la pièce qui sera jouée dans le cadre du printemps bio. Chez les agriculteurs Elisabeth et Michael Lepage, l'entrée est à prix libre avec une participation au chapeau. pensez bien à apporter de quoi vous asseoir, puisqu'un goûter bio local vous sera également en proposé pour 2 euros, avec la possibilité de voir l'arrivée des vaches pour la traite du soir. L'entrée est libre, mais il est recommandé de réserver par mail ou par téléphone au 06 04 19 73 44 ou par mail à michael-lepage@wanadoo.fr. Ce spectacle, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais les différents échos que j'ai pu en avoir sont particulièrement bons, donc c'est un rendez-vous à noter dans vos agendas. Et on termine avec un événement insolite organisé par l'association Memento Vivere, une course en autostop au départ de Mayenne qui aura lieu le 8 et le 9 juin. Cette course s'appelle Memento Vive Express. Les participants seront inscrits en binôme et devront être prêts à parcourir 200 km en autostop. La course sera ponctuée de jeux d'énigmes, de jeux d'agilité tout au long du week-end. La nuit sera en bivouac sur un lieu encore tenu secret. Vous avez jusqu'au 19 mai pour vous inscrire sur le site Hello Asso de Memento Vivere. La participation est de 50 euros pour la participation aux différentes balises et à l'organisation des repas. Et maintenant, la météo. On regarde un peu par la fenêtre et voyez-vous, j'ai plutôt envie de vous dire que par ma fenêtre, ce matin, j'ai vu des enfants heureux sur le chemin de l'école, j'ai vu des couples amoureux s'embrassant pour se dire au revoir, se souhaitant une bonne journée. Bon, eh bien, ça donne de l'élan parce que là, le temps nous dépite, nous fatigue. Voyez-vous, pour arriver jusqu'au studio, je traînais des pieds, je cherchais du sens, je cherchais le soleil, je cherchais la lumière. Mais je suis honnête et je vais quand même vous le dire. Ici, on ne se raconte pas d'histoire. Alors aujourd'hui, on est comment ? Peut-être un peu terne sous les nuages gris qui s'étendent partout en Mayenne et même un peu humide. Non, ce ne seront pas des larmes sur les visages des habitants de Goron, Loiron et Cran. C'est la pluie qui perlera sur leurs visages pour tous ceux qui ont délaissé le parapluie, de grands optimistes. Du côté des températures, entre 16 et 18 degrés, 18 degrés pour Cran, 16 à Saint-Poix, Saint-Germain-le-Guillaume et à Lehors. Pour le reste, vous pouvez miser sur 17 degrés au thermomètre. Demain, mercredi, regardons quand même des éclaircies. Bien voilà, au nord-est du département, du soleil et quelques nuages, au sud-ouest aussi. Finalement, partout ailleurs, quelques rayons, mais encore de la pluie. Non, ne pensez pas que je me fâche, mais cette météo quotidienne devient un véritable défi pour nous pendant ce mois de mai. Alors, on ne s'attarde pas et on passe à la suite. Et maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ce samedi 18 mai ? Rien ? Non ? Vous n'êtes peut-être pas encore bien sûr ? Eh bien voilà, vous tombez bien, j'ai quelque chose pour vous. Ça se passe partout en France, mais moi je vous emmène au château de Mayenne pour une soirée pas ordinaire, on peut même dire extraordinaire. Alors le terme est plus juste. Samedi soir, c'est la nuit européenne des musées. Au château de Mayenne, ça commence au musée du château de Mayenne, ça commence à 19h et ça se termine à 23h, ce qui vous est proposé est entièrement gratuit. La nuit au musée, ce n'est pas qu'au cinéma. Allez-y. Écoutez.
Mathieu Grandet, directeur du musée du Château de Mayenne. C'est une manifestation nationale, donc dans tous les musées de France et d'Europe sont invités à participer, qui vise à ouvrir gratuitement le plus largement possible les sites et à proposer des activités qui peuvent sortir un petit peu de l'ordinaire pour les publics et qui peuvent aussi permettre de, nous en tout cas on le prend comme ça, comme une volonté de croiser des esthétiques et de croiser des propositions qui vont permettre au public de s'y retrouver et puis de mettre en valeur les collections ou le bâtiment de manière différente de ce qu'on peut faire d'habitude. Déjà parce qu'on est la nuit, donc la nuit il y a plein de choses différentes qui peuvent se passer que la journée et donc ça donne une ambiance totalement différente dans le site et on a la chance ici d'être dans un château, donc ça rajoute aussi l'aspect un petit peu fantastique. Nous, on s'autorise des choses, des propositions cette soirée-là qu'on ferait peut-être pas à d'autres moments de l'année. Et ça permet aussi de vraiment de mélanger les approches et de mélanger les publics aussi.
Alors parlons de ce qui est prévu ici ce samedi 18 mai. La musique s'invite au musée.
Oui, c'est la thématique qu'on a choisie cette année. Tous les ans, on choisit toujours une thématique particulière. Là, la musique, avec plusieurs angles, avec un artiste invité, Mazarin, qui vient et qui va faire trois sets différents, qui vont jouer à différents moments dans la soirée. Un premier à 19h45, un deuxième à 21h30 et un troisième à 22h45. Et avec ces sets qui vont permettre à la fois de lui de proposer un éventail, une palette assez large de son répertoire, ce ne sera jamais la même chose qui sera présentée, ce sera toujours trois sets différents. Et puis aussi de faire ressortir un petit peu de l'eau des projets sous-marins qu'on a de médiation, d'accompagnement des publics, que ce soit avec des publics issus du champ scolaire, des publics issus du champ social ou alors des publics qui viennent en individuel au musée et qui, eux, donc ces trois types de publics-là, ont chacun écrit et composé une chanson avec l'artiste. Ce sera un des morceaux du set qui sera joué à chaque fois. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir venir voir, écouter ces chansons et puis écouter ces chansons et la façon dont le château a inspiré aussi ces différents publics et qui seront mis en valeur ce soir-là.
On parle là des ateliers réalisés avec l'artiste Mazarin. Pour la partie musicale, il y a d'autres invités ?
On a invité l'ensemble de guitares du conservatoire de Mayenne Communauté, donc une vingtaine de guitaristes amateurs qui a un programme cette année autour des musiques de jeux vidéo. Ça paraît peut-être bizarre les jeux vidéo ici, alors déjà le jeu vidéo est un champ aussi culturel investi. Et puis aussi on a au musée, on a une collection de pièces de jeux médiévales, donc échecs, tric-trac. Nous ça nous intéressait aussi de travailler sur ce fil qu'il y a entre les jeux, des jeux de société et puis des jeux vidéo et de voir comment est-ce qu'on peut les relier. Et ce soir-là on les relie avec l'ensemble de guitares du conservatoire.
L'instrument à cordes sera mis à l'honneur et d'ailleurs on pourra aussi découvrir deux instruments un peu plus insolites venus d'Asie et du Gabon.
Dans un musée, il y a des collections qui sont présentées au public et on a aussi des collections qu'on conserve, des collections qu'on a en réserve. Et ces collections, on s'en occupe aussi, on les sauvegarde, on les restaure quelquefois, on les présente ou on les prête. Dans ce cadre-là, on a deux instruments de musique, une sitar et une harpe, qui sont issus de l'ancien musée de Mayenne qui a fermé en 1977. Ces collections n'ont pas été présentées depuis 2017 ici, et donc on les sort spécifiquement, on va en discuter, on va parler de ces objets avec le public, à la fois de ces objets, de ce qu'ils nous racontent, et puis à la fois aussi de comment ils sont arrivés dans les collections. Voilà, c'est un ancien Mayennais, un natif mayennais, si je puis dire, quelqu'un qui est né ici et qui est parti ailleurs après se balader un peu aux quatre coins du monde. Et lorsqu'il est décédé, en fait, sa famille a donné les objets qu'il avait amassés pendant sa vie au musée. Et donc, on les présente dans ce cadre-là.
Même si on connaît déjà le musée du château de Mayenne, ça vaut le coup de revenir pour cette nuit européenne des musées, alors ?
Il faut venir déjà parce qu'il y a vraiment une ambiance qui est particulière. On a une lumière, on ressent les choses différemment la nuit. Même les gens qui connaissent le musée, on peut y venir et avoir une sensation différente avec les œuvres, avec le bâtiment. On a la chance d'avoir des créations inédites pendant cette soirée-là. Donc là, ce que propose l'artiste est inédit. Quand on bosse avec des jeunes dans le cadre du CLAS, du contrat local d'accompagnement à la scolarité, c'est des familles pour qui le musée est un bâtiment un petit peu lointain dans la ville. Et le fait de les accompagner, d'avoir fait plus d'une dizaine d'ateliers avec eux, en partenariat avec le Centre social des possibles et puis avec une médiatrice culturelle du musée, de leur avoir permis la rencontre avec un artiste. Là, ils ont une triple rencontre quoi, avec un bâtiment, avec des collections, avec un artiste. Et les voir s'émerveiller maintenant en venant ici, alors qu'au début ils arrivaient un petit peu sur la pointe des pieds, et puis se devenir eux-mêmes les médiateurs, parce que ce qu'ils vont faire samedi soir, c'est un petit peu de la médiation. Ils vont expliquer eux ce qu'ils ont ressenti du musée au travers d'une chanson et l'expliquer au public, et ils l'ont fait aussi, ils sont venus sur d'autres temps l'expliquer à leur famille, à leurs amis. Eux aussi deviennent les ambassadeurs du musée, et ça permet un petit peu de briser la glace qui peut être une glace uniquement mentale, si je puis dire. Voilà, on se dit qu'un musée, c'est pas fait pour tout le monde. Et si, il se passe plein de choses dans un musée. Et venir samedi soir, c'est vraiment la preuve de tout ce qui se passe ici.
On est de retour en studio sur l'autre radio. Vous écoutez la JT du local. Et on termine ensemble avec Donatien. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le steak de soja. Je n'en sais pas plus. Donatien, éclaire-nous.
L'année 2004 sera marquée par les Jeux Olympiques qui devraient contribuer à la notoriété internationale de la France. Donatien cherchera plutôt un coin tranquille, soit en Bretagne, soit en campagne, peut-être dans la campagne bretonne. Paris sera le centre de la France, volant la vedette au Cher, à l'Allier ou encore à ce bon vieux Limousin où paissent tranquilles nos quadrupèdes aux qualités bouchères incomparables et qui resteront très probablement indifférentes aux performances sportives des athlètes venus de tous les horizons. À Paris et aux environs de la capitale, toutes les mesures de sécurité seront assurées par la police. Déjà, les équipes des renseignements généraux sont à pied d'œuvre pour que tout se déroule dans le calme. Donatien s'inquiète pourtant d'un vent de colère qui souffle sur les prairies paisibles du Massif central, de la Nièvre ou du Cantal. Un groupement d'artisans bouchers sont vent debout. Vent debout contre quoi ? Contre le prix du stationnement ? L'augmentation des chambres d'hôtel ? Les taxes d'aéroport, les transports en commun ou la vignette anti-pollution? Non. Les bouchers charcutiers de nos villages, creusois et corréziens, entre autres, sont prêts à manifester en tablier sur la place publique contre l'appellation « steak végétal ». Une aberration! Steak de soja, steak aux céréales, steak végétarien, non mais allô quoi ! Manon, Bobo, le mot steak, c'est pour la bidoche. Il y va de la notoriété de la culture charcutière française. La culture charcutière française, celle qui trône sur le podium, le boudin aux morilles, la mortadelle à la pistache, les œufs en gelée, la terrine aux cèpes cuisinée à l'armagnac et celle au piment d'Espelette. Passons sur les spécialités de jambon italien qui sonnent comme des chansons siciliennes et attardons-nous sur les spécialités bouchères, le steak tartare, le rôti de bœuf Lucullus et le rôti de veau Orloff, le gentil filet mignon et la pintade farcie. Jeux olympiques ou pas, Donatien, quand il pousse la porte tintinabulante du boucher sur la place du village où il passe ses paisibles vacances, se dit qu'on est là effectivement hors compétition, sur la plus haute marche du podium de la culture bouchère et charcutière française. Quand seront passés les Jeux olympiques 2024 et quand sera adopté le décret interdisant l'appellation steak végétal, c'est bras levés que Donatien, grand amateur de chipolata aux herbes, soutiendra les défenseurs du patrimoine dans la lutte contre l'appellation abusive de la saucisse végane. Vive le Limousin, vive la charcuterie et vive les jambons italiens.
Ya ballade, femminischette maritati, essa na ballade, poni un vigande non vi son. Ya ballade, femminischette maritati, essa na ballade, poni un vigande non vi son. Su, 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 quando femmini cacci su, cinne quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinne quattro maccatelli, ni facemo che pisetti. Uomini schette maritati, essere abballati, buoni non vi cande, non vi son. Abballati, abballati, uomini schette maritati, essere abballati, buoni non vi cande, non vi sono. Su, 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 quando uomini cacci su, cinque quattro scavazzati, ni facemo che patati, cinque quattro maccatelli, ni facemo che mi senti.
C'était Abalati de Roberto Alagna, Yvan Cassar et le Paris Symphony Orchestra. L'agité s'arrête ici. Merci à Gaëlle et à Henri d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Donatien. Un très beau programme sur nos ondes aujourd'hui. La soirée commence à 19h avec À la jeunesse, les micros. Aujourd'hui, l'émission aborde la question des guerres qui partout ont lieu. Alors face à ça, il y a le choix de voir ou de ne pas voir, d'aider ou ne pas aider celui qui a fui son pays ou encore se battre ou ne pas se battre pour négocier la trêve, l'accalmie. Et alors pour parler de ça, les invités de cette émission sont Justine Lacroix, professeure de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et Eugenia Rudenko, qui, elle, est journaliste. Ensuite, à 21h, c'est Frères de Chaussures, une émission qui nous parle du rap français. C'est même Fatshu qui nous en parle plus précisément. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission, une nouvelle agitée. Et nous serons avec Thibaut et Chloé du Gazoufest qui aura lieu cette année du 24 au 26 mai. Un jeune festival qui porte de très belles valeurs. Soyez au rendez-vous, s'il vous plaît. Et d'ici là, écoutez l'autre radio, dansez le tango ou ce qui vous plaît. Il suffit parfois de se lancer, pourvu seulement que ça nous fasse du bien.
Tu sais, Mimi, quand je commence l'agité du local, j'aimerais que ça s'arrête jamais.